Aujourd'hui et demain, c'est la fête de l'opéra. 21 salles en France ouvrent gratuitement pour permettre à un large public et surtout aux moins habitués de franchir les portes des maisons lyriques, de découvrir les bâtiments, mais aussi les coulisses, les salles de répétition, d'assister à des concerts et beaucoup d'autres réjouissances encore. L'opéra, souvent encore jugé élitiste et réservé aux baby boomers, eh bien, notre invitée de ce matin est une preuve vivante du contraire. À 23 ans, elle a été la révélation aux victoires de la musique classique 2017. Bonjour Léa Desandré.
Bonjour.
Je ne sais pas si je dois dire Desandré vraiment à l'italienne, comme votre nom originel doit se prononcer, ou à la française Desandré.
Mais... Desandré.
Vous vous dites Desandré. Alors je resterai sur Desandré. Vous incarnez Alcyone dans l'opéra de Marin Marais qui se joue à l'opéra comique en ce moment. L'opéra comique participe de tous à l'opéra, cette manifestation dont je parlais. Vous en avez entendu parler depuis quelques années. C'est la 11e édition, tous à l'opéra ce week-end.
Oh oui, oui, j'en ai beaucoup entendu parler parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup de publicité autour de ça et que c'est un événement assez important dans le milieu de l'opéra. Après, pour nous aussi, là, en étant à l'opéra comique en ce moment, on a vu bouger un peu les équipes parce qu'ils sont venus tourner un clip. Et je trouve que c'est un événement assez formidable de permettre aux gens de venir comme ça à l'opéra, d'ouvrir les portes et de faire découvrir ce monde qui est un petit peu, enfin, pas mystifié, mais on s'en fait vraiment tout un monde. Tout un monde, exactement. Alors que c'est très simple et très à la cool et sympa et voilà.
Donc c'est vrai que c'est pas l'image qu'on s'en fait extérieurement. Souvent, c'est intimidant de pousser une porte d'opéra. Les prix restent chers, même s'il y a vous en avez d'ailleurs bénéficié, puisque je crois que vous êtes allé de très nombreuses fois quand vous étiez encore plus jeune qu'aujourd'hui à l'opéra,
oui,
grâce à des abonnements jeunes.
Oui, j'allais à l'opéra 3 fois par semaine à peu près. Et j'avais des abonnements dans toutes les maisons. Pour 10 euros, j'avais ma place. Vraiment, les tarifs d'opéra n'ont pas été un souci dans le sens où, si on veut y aller...
Sans être au cinquième étage, derrière un pilier ?
Absolument. Alors après, pour les jeunes, il y a des tarifs vraiment très intéressants, notamment arriver au spectacle quelques heures avant et être placé au 3e rang d'orchestre pour un coût très, très bas, au final. Et... voilà, donc si on veut y aller, on peut y aller pour peu d'argent.
Il faut juste oser.
Il faut oser et il faut un peu anticiper aussi.
Ça veut dire quoi, anticiper ?
Alors les saisons se préparent, enfin sont annoncées une année à l'avance. Et voilà, si on veut y aller, pour pas payer nos places trop cher, il faut les prendre peut-être 6 mois à l'avance.
Bon, il y a l'anticipation, parce qu'il faut réserver et avoir de la place, le prix, mais aussi une forme de culture particulière à l'opéra. On se dit, si je connais pas, je vais rien comprendre, je vais pas pouvoir apprécier.
C'est vrai. Pour avoir eu ma grand-mère qui chantait à l'opéra de Bordeaux, quand j'étais petite, je me moquais régulièrement d'elle parce que j'imaginais à l'opéra des dames très fortes qui arrivaient sur le plateau, qui ne bougeaient pas, qui chantaient leur air et qui ressortaient. Et étant entrée dans cet univers via Nathalie Dessay, je me suis rendu compte que absolument pas, non. Un petit bout de femme pleine d'énergie et d'intensité dramatique et musicale énorme. On se rend compte que c'est plus ça, que la musique est très abordable, notamment là en ce moment pour faire Alcyone à l'opéra comique. On a plusieurs passages où nous, en coulisses, on savoure via les retours qu'on a du plateau. Et il y a des airs, notamment un air de Marc Moyon qui fait Pélé, qui est vraiment, c'est de la musique pop, quoi. On pourrait s'imaginer avec les briquets au Palais des Sports, je sais pas. C'est de la musique qui... par moment, et vraiment, enfin, on se dit c'est de la musique actuelle, quoi. Ça aurait pu être écrit de nos jours. Il faut casser ces idées qu'on se fait préconçues de l'opéra et y aller et voilà, se rendre compte que c'est tout à fait abordable. J'ai 23 ans, je vais écouter beaucoup de types de musique, mais aussi beaucoup de musique classique. Parce que c'est facile, en fait. Quand on s'y plonge, c'est facile.
Alors, il n'y a pas que des Nathalie Dessay, des petits bouts de femmes pleins d'énergie, comme vous l'êtes aussi, hein, d'ailleurs, Léa Desandré, dans l'opéra. Il y a aussi des femmes qui sont des femmes puissantes, comme par exemple cette marraine de la 11e édition de Tous à l'opéra. C'est la contralto Marie-Nicole Lemieux qui a inauguré la manifestation avec un concert gratuit hier soir, précisément, à l'opéra comique. La voix de Marie-Nicole Lemieux qui reconnaissable entre toutes par son merveilleux accent québécois, si chaleureux. Eh bien, Marie-Nicole Lemieux, Amélie Perrault l'a rencontrée mercredi à propos de cette manifestation. Écoutez-la.
21 maisons d'opéra en France ouvrent leurs portes. Donc, ça veut dire entrer dans leurs murs, mais non seulement dans les murs, mais aller dans les coulisses, aller dans l'arrière-scène. Et puis, par exemple, ici à Paris, il y a quand même l'Opéra Comique qui a été fermé depuis un an et qui est un bijou. Vraiment, d'être dans cet endroit, c'est magnifique. Mais je parle aussi de... Il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Nancy. Il y a tellement de jolis théâtres, de jolis opéras partout en France, Lille. Donc, allez-y. Et puis, il n'y a pas juste... Là, on parle de visiter, mais il y a aussi des activités comme chanter. Chanter l'opéra avec les gens. Par exemple, à Toulouse, c'est chanter en famille l'opéra. Donc, quel bonheur. On est là, puis on chante. Il y a aussi à Tours, faites le parcours de l'artiste. C'est-à-dire que on entre par l'entrée des artistes, donc pas par la grande porte, la petite porte de côté. Après ça, il y a le maquillage, perruque, costumes et tout ça, donc, et puis on va aller vers les coulisses et peut-être qu'ils iront sur la scène. Et ça, c'est très drôle parce que ça, c'est un phénomène qui est tellement intéressant. C'est-à-dire, les gens parlent, oui, tu vois. Donc, il y a toujours une espèce de brouhaha dans les coulisses. On est impressionnés parce que, mon Dieu, les coulisses, c'est beaucoup plus grand qu'on pensait. Et quand on les fait venir sur la scène, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un silence qui arrive. Et de se retrouver sur scène et de voir ce que l'artiste sur scène voit, c'est-à-dire le théâtre devant soi, c'est magique aussi.
Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent après ce week-end?
Souvent, ça fait peur, puis on se rend compte que ça peut être accessible, l'opéra. C'est sûr que sur papier, ça fait peur. Mais c'est beau parce que souvent, c'est ça. Il y a un côté grandiose qui nous fait peur, mais en fait, c'est du spectacle. C'est ça. Et les sujets, souvent, sont tout à fait normaux. La plupart des histoires, c'est des histoires d'amour parce que c'est vraiment le sujet le plus chanté sous toutes ses formes à l'opéra. Et puis, surtout, ça, c'est une chose importante aussi, c'est que tout est en gratuit. Pour les gens qui veulent faire connaître, par exemple, l'opéra à leurs enfants ou à leur famille, et on va pas se cacher, quelquefois, ça peut être assez onéreux. Et là, on peut avoir un premier pas de fait, en tout cas pour les enfants, on les amène. Mais donc, ça peut être une bonne entrée en matière, je pense.
Est-ce que vous savez ce qui vous a fait aimer l'opéra?
C'est le drame. dans mes premiers coups de cœur, là, c'était La Bohème, puis La Traviata. La Traviata, en fait, c'était le film de Zeffirelli, vous savez, la mise en scène avec Stratas et Domingo. Mais vous dire comment j'ai pleuré là, en écoutant ça. Donc, j'étais vraiment dans les histoires tristes. Hein, mais puis voilà, moi, c'est ce qui m'avait touchée, c'était ça. C'était la musique qui exprimait quelque chose qui allait encore plus loin que ce que je pouvais exprimer en mots. On capte l'émotion que ça peut nous donner. Et ça, je trouve ça me faisait rêver, quoi. Ça, j'adorais. Vous savez, la première raison, si je chante du classique, c'est parce que j'aime l'opéra. Moi, quand je suis dans la salle, il n'y a rien de mieux qu'un chanteur qui réussit à vous faire à frissonner par la beauté de sa voix, puis en même temps par l'émotion qu'il est capable de passer à travers sa voix, puis en jouant, là, hey, ça vient vous arracher le cœur. C'est super. Quand ça marche, c'est magique.
La contralto Marie-Nicole Lemieux au micro d'Amélie Perrault, Léa Desandré. Vous vous souvenez-vous de votre première émotion à l'opéra, de ce qui vous a fait aimer l'opéra? Si c'est parce que vous avez pleuré, comme Marie-Nicole Lemieux, ou pour une autre raison?
C'était à l'Opéra Garnier. C'était un événement un peu particulier, c'était un spectacle qui mélangeait danse et chant. Et c'était Nathalie Dessay et Marie-Agnès Gillot qui avaient créé une pièce dans laquelle Marie-Agnès dansait, puis Nathalie la rejoignait. Et c'était la première fois que j'entendais de l'opéra en live. Et le premier son qui est sorti de la bouche de Nathalie Dessay, j'ai une larme qui est coulée et ça ne s'est pas arrêté pendant toute la pièce. Et voilà, c'est ça, c'est comme...
Si on veut pleurer, on va à l'opéra, en quelque sorte.
Absolument.
Entre vous et Marie-Nicole Lemieux, c'est pas forcément pour rire.
Non, pas forcément. On y rit, mais on y pleure beaucoup, c'est vrai. Et c'est un lieu où, au niveau des émotions, c'est très intense. Et Marie-Nicole le dit très bien, et c'était une force assez incroyable, parce que ça... Ça touche directement la voix, même quand on parle au travers de la voix. C'est un instrument qui est très direct. On peut difficilement cacher nos émotions avec la voix. Et je pense que c'est ce vecteur-là qui fait que l'opéra a une magie particulière. Voilà.
Comment vous y êtes venue, vous ? C'est parce que votre grand-mère chantait dans les chœurs du Grand Théâtre de Bordeaux ou pour un autre biais ?
J'y suis venue par Nathalie Dessay.
Découvrant Nathalie Dessay,
ouais, exactement,
que vous avez eu envie de faire comme
exactement,
elle.
Exactement, oui.
Et là, vous avez découvert votre voix, vous êtes partie prendre des cours avec une autre contralto. Pourtant, c'est rare les contraltos. Bon, ouais. Une autre contralto italienne, Sara Mingardo. Que vous a-t-elle appris, Sara Mingardo ?
Beaucoup, je dirais pas tout, parce que tous mes professeurs m'ont beaucoup appris, mais outre la partie technique et vocale, elle m'a appris à faire de la musique. On a beaucoup travaillé techniquement, mais c'était toujours pense à l'émotion, pense à ce que tu dis, pense au texte. Et elle m'a appris à me trouver, en fait, aussi à savoir quelles étaient mes envies dans le milieu et la façon dont j'avais envie d'aborder ce métier, plus vraiment à garder l'idée de la passion, ce qui était l'origine, plutôt qu'une carrière, et garder toujours ça simple. On fait de la musique, on est là pour partager des choses, et jamais d'ego avec Sarah, ça a toujours été très... Voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Chanter, ben voilà, ça s'arrête là.
Après ce cours avec Sara Mingardo, vous êtes partie, vous êtes plutôt revenue d'ailleurs en France, Léa Desandré, parce que vous avez participé au Jardin des Voix, l'Académie de chant de William Christie, d'où vous êtes d'ailleurs sortie lauréate. Une bonne école, hein, l'école du Jardin des Voix de William Christie. Et là, vous avez peut-être posé votre voix, appris à travailler votre voix, voix qui est non pas contralto, vous, mais mezzo-soprano. Alors on entend le grave ce matin, hein, vous disiez c'est votre voix du matin. Oui. C'est quoi mezzo-soprano ? C'est une soprano avec des graves justement ? C'est quoi ?
C'est une voix qui est plus à l'aise dans la zone peut-être plus centrale, qui peut monter, parce que l'ambitus d'un mezzo-soprano, en tout cas dans les rôles qu'on nous demande de chanter, va du sol grave au contrut. Donc c'est une voix longue, qui peut monter, qui peut descendre, mais qui doit se retrouver dans cette zone médium, qui a plutôt une particularité assez charnue, le timbre est ce que j'appelle dodu.
Dodu,
c'est mon mot.
C'est vrai qu'on dit souvent une voix ronde.
Voilà. Donc, Et puis après, voilà, il n'y a pas d'autres spécificités. Les mezzos chantent souvent des rôles de pages ou d'hommes, de jeunes travestis, mais aussi comme Marie-Nicole, des Carmen et des femmes plus... plus tragédienne.
Si on vous écoutait, on va vous écouter chantant ce que vous avez d'ailleurs, Léa Desandré, interprété aux Victoires de la musique classique, Judith triomphant dans le Armate Facce et Anguibus de Vivaldi.
Facce barbari, furie, 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 venite a nos. Armare face d'alpe bodace, con regno squallido.
Léa Desandré, on vous retrouve dans deux petites minutes après les titres du journal de 7h30. 7h30 sur France Culture. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Caroline. Dans l'actualité ce matin, le combat un peu désespéré, il faut bien le dire, des Whirlpool à Amiens. Ils mettent fin à la grève après avoir obtenu non pas la sauvegarde de leurs emplois, mais bien de meilleures conditions de départ. L'usine de production de sèche-linge sera de toute façon délocalisée en Pologne l'an prochain. Le vote pour le second tour de la présidentielle qui commence dès midi dans les bureaux de vote des Amériques. Quel poids pour le vote ultramarin et pour le vote des Français de l'étranger ? C'est ce que nous verrons dans le journal de 8h avec Karine Bécard. Trop souvent encore abandonnées à elles-mêmes, les familles d'enfants autistes en France en demandent plus à l'État après le bilan révélé hier du 3e plan national autisme. Le volet international de notre journal de 8h nous emmènera en Iran où la campagne présidentielle bat son plein avec un débat télévisé hier et une crise économique et sociale incontournable pour comprendre les enjeux du vote, c'est ce que nous verrons. À Rio, nouveau scandale de corruption à un milliard de de dollars. Cette fois, il concerne la construction d'une ligne de métro pour les Jeux Olympiques. Le budget a explosé pendant les travaux, plus 600%, et 30 responsables locaux sont accusés de s'être remplis les poches. Enfin, à 8h, nous aurons une pensée pour les candidats du baccalauréat 2017. Ils passent en ce moment les épreuves des options facultatives, des matières parfois insolites et hautes en couleur, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant.
À tout à l'heure, alors, 8h à suivre dans la prochaine demi-heure, la suite de notre entretien avec la chanteuse lyrique Léa Desandré. À 7h45, la fabrique médiatique après 100 jours de présidence. Les relations entre Donald Trump et les médias se sont-elles apaisées? Nous recevrons Adam Nociter du New York Times et Eric Scholl du Courrier International.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On dit qu'il mène le monde, un numéro spécial de réplique autour de l'argent sur France Culture. Alain Finkielkraut invite Fabrice Luchini, qui sera sur scène à la rentrée pour un spectacle bâti sur ce thème autour de textes de Marx, Shakespeare, Pascal Bruckner, Charles Péguy, Jean de La Fontaine. À l'heure où les économistes font la loi, Luchini convoque à nouveau des écrivains. Petit florilège à l'antenne et débat. L'argent, réplique aujourd'hui à 9h05 et sur franceculture.fr.
Léa Desandré est avec nous ce matin. Léa Desandré, chanteuse lyrique, mezzo-soprano, révélation lyrique aux victoires de la musique classique de cette année. On entendait d'ailleurs un extrait de Vivaldi que Léa Desandré a chanté aux victoires lors de cette soirée. Léa Desandré, vous nous parliez de la voix, de votre voix déjà, puis des voix que vous aimiez comme celle de Nathalie Dessay. Je crois que vous aimez aussi celle de Véronique Gens, par exemple. Vous nous disiez que vous étiez une mezzo-soprano tout à l'heure. Ce que permet votre voix et ce qu'elle ne permet pas. Quel type de répertoire vous permet cette voix?
Alors déjà, il y a une chose, je suis mezzo-soprano parce qu'on doit se mettre dans des cases. Après, notamment avec Sarah Mingardo, ce qu'on a travaillé, c'est prendre des partitions, les chanter et voir ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas dans la tessiture. Donc ne pas s'arrêter à ce qui est écrit sur le papier, notamment parce qu'à l'époque baroque, les mezzo-soprano n'existaient pas. C'était ou des castras ou des sopranos. Il n'y avait pas de terme pour la tessiture entre les deux. Donc voilà, il n'y a pas de limite dans le sens où on chante ce qui nous va. En tout cas, c'est ma vision des choses. Par exemple, des rôles que chante Véronique Gens, comme Gluck dans Alceste ou des choses comme ça. Je me dis que peut-être dans 20 ans, même si...
Oui, c'est ça, aussi, votre voix est jeune, peut-être voilà. Que votre voix va évoluer, les voix changent aussi.
Et la voix change. Donc c'est vrai que même là, bon, la voix continue encore de muer. Je suis sur la fin de mue et j'ai senti ces 2-3 dernières années vraiment la voix changer. Se densifier ou alors continuer à gagner de l'agilité, enfin, ça continue à changer. Et c'est aussi en fonction des rôles qu'on chante et des choix qu'on fait au niveau du répertoire que la voix évolue. Évidemment, si je me dirige vers des rôles dans une tessiture plus aiguë, la voix va se développer dans l'aigu. En fait, c'est comme une couverture. Si on tire dessus pour aller dans l'aigu, les pieds sont découverts, donc on travaille plus cette zone grave. C'est pour ça que c'est intéressant au fil des années de chanter des rôles qui balaient toute la tessiture pour la nourrir et continuer à la faire grandir ou en tout cas à la faire évoluer.
Aujourd'hui, le répertoire baroque vous convient-il particulièrement?
C'est vrai qu'au niveau de la taille de l'orchestre, notamment des effectifs, c'est une musique qui me permet de chanter simplement sans me soucier de l'équilibre plateau-salle. Et puis c'est aussi un répertoire qui demande beaucoup de souplesse, notamment la musique italienne, le baroque italien, avec toute l'agilité qu'on y trouve, mais aussi les airs plus lents avec le legato. Donc c'est vrai que ça me permet de continuer à étudier, si on peut dire ça comme ça, tout en travaillant. Pour les saisons à venir, il y a des Mozart qui arrivent, des Rossini, donc c'est vrai que c'est très excitant. Mais je suis ravie d'être passée par cette phase-là et j'espère continuer à faire de la musique ancienne, mais ne pas rester non plus là-dedans. Mais le baroque est très formateur aussi pour tout ce qui est texte, parce que la déclamation, il y a une grande place chez Monteverdi, chez Marin Marais. Donc on apprend à goûter le texte et à vraiment le chanter et ne pas être arrêté sur l'aspect vocal de la chose, quitte à déborder un peu vocalement et faire des sons qui ne sont pas souhaités ou qui ne seraient pas purs, par exemple chez Mozart. Là, on laisse parler l'affect et tout passe au travers des mots, c'est très fort et c'est important quand on commence à chanter de vraiment dès le début être sur le texte.
Marin Marais que vous chantez en ce moment, Léa Desandré, puisque vous interprétez Alcyone, on dirait que c'est un rôle écrit sur mesure pour votre voix, on va en écouter un extrait.
Que
Léa Desandré, voilà, on vous entend dans Alcyone, Alcyone, opéra de Marin Marais, une histoire de dieu, de jalousie d'homme, une histoire d'amour empêché. Vous êtes Alcyone, Alcyone est fille d'Éole, dieu du vent, vous êtes une demi-déesse. Ça peut pas être très simple de jouer une demi-déesse.
Non, c'est vrai que...
C'est un défi à relever.
Oui, j'ai dû demander à Louise Moati un petit peu...
Qui est la metteur en scène.
La metteur en scène d'aide à ce niveau-là. Et aussi au niveau du côté tragique du personnage. Parce que c'est vrai qu'en lisant la partition, évidemment, tout de suite, on est séduit parce que la musique est sublime et que le personnage est assez complexe. Mais je me suis dit, une tragédienne, est-ce que je sais faire ça ? Je ne me sens pas très mûre à ce niveau-là. Pour moi, il faut avoir vécu beaucoup de choses pour pouvoir nourrir ça. Et avec Louise, on a beaucoup travaillé. Notamment, elle m'a fait lire des textes de théâtre.
Et c'est la première fois que vous jouez un rôle de tragédienne ?
Oui, absolument. C'est la première fois. C'est un rêve, mais je me suis toujours dit, pareil, dans 20 ans, une tragédie. Mais là, il se trouve que ça a été écrit pour une chanteuse qui avait 24 ans. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est faisable. Et en fait, ça a été passionnant, parce qu'en plus, ce personnage-là passe par beaucoup de phases. Il y a le mariage, après il y a une tempête, il y a la prière, il y a le suicide, elle ressuscite. Enfin, c'est intense en termes d'émotion et ça a été un gros travail. Mais une fois qu'on traverse toutes ces étapes-là, bon, à la fin on est relativement lessivé. Mais c'est fort et c'est une école énorme, quoi.
Le plus dur, ça a été la musique ou le personnage pour vous ?
Je dirais le personnage, oui. Parce que ça semble très simple. Mais pour nourrir, elle se plaint souvent. Alcyone, elle se lamente quasiment du troisième acte à la fin du cinquième acte. Ça fait beaucoup. Donc, il faut trouver des nuances et des couleurs. Et c'était ça le plus difficile. Vocalement, l'écriture n'est pas difficile parce que l'ambitus n'est pas très large.
Et une fois de plus, mais il y a des ornements, des broderies, des coulées. On est dans une musique avec une... Quand on l'entend, hein. Moi, je ne suis qu'une simple auditrice, Léa Desandré, mais on a l'impression d'être face à une technique vocale extrêmement difficile, tout simplement.
C'est vrai que c'est très précis, c'est de la broderie, c'est très délicat. Après, ça, c'est un travail justement avec William Christie, avec Sarah Mingardo, tout ça. Je l'ai quand même bien travaillé, on a passé beaucoup de temps là-dessus.
Aujourd'hui avec Jordi Savall,
avec Jordi
qui dirige cette opéra.
Donc au bout d'un moment, le langage devient pas naturel, parce que c'est jamais naturel, par exemple, d'empêcher une voix de vibrer. On n'a qu'une envie, c'est de lâcher la voix. Là, on peut pas, là tout est contrôlé, sauf dans les parties récitatives déclamées, où oui, là on chante et on se permet de ne pas contrôler. Mais vraiment, les airs, c'est pas justement comme chez Rossini, c'est pas le même plaisir, quoi. C'est du contrôle permanent, mais c'est ce qui fait aussi que cette musique est très belle, parce qu'elle est très délicate.
Et elle comporte beaucoup de textes. C'est-à-dire, quand vous chantez, parfois on a l'impression que vous êtes obligé d'aller très très vite dans les mots, parfois même de manger les mots. On comprend tout, donc c'est aussi une gageure quand même, Léa Desandré. C'est-à-dire qu'il faut quand même tout comprendre avec une quantité de textes. Non, il n'y a pas particulièrement beaucoup de mots à dire dans cet opéra d'Alcyone. Pardon pour ces questions triviales.
Hein, mais... Non, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de mots. D'ailleurs, souvent les mêmes mots. Dieu, ciel, cruel. Donc c'est vrai que nous, on s'y perd un peu par moment. Il faut vraiment garder le fil. Mais c'est la difficulté de ce répertoire, mais c'est aussi ce qui le rend intéressant. Et puis il y a un truc qui est spécifique à cette musique aussi, c'est le continuo, qui a une grande partie dans cet opéra. Et
c'est quoi le continuo ?
Alors le continuo, c'est ce qu'on appelle, c'est la basse continue. Là notamment, on a un clavecin, des théorbes, des luths, des viols et violoncelles, et qui sont là pendant les parties récitatives, et qui nous accompagnent au fil du texte, qui sont là pour appuyer les mots, pour les rendre plus forts ou plus doux. Voilà, donc c'est un vrai dialogue avec le continuo. Donc, comme vous dites, le débit dans les récitatifs est assez rapide, comme à la vitesse du texte parlé. Et donc, le continuo et nous, on doit trouver un rapport, on doit être ensemble. Donc, sentir à quel moment on va faire tomber un mot, à quel moment on va ralentir. Donc, c'est un vrai travail d'écoute. Mais c'est passionnant, moi c'est ce que je préfère.
Et comme il ne faut jamais faire les choses les plus simples, hein, vous dansez en même temps. Alors il se trouve que vous avez fait 13 ans de danse, Léa Desandré, mais quand même, chant et danse dans un spectacle comme Alcyone de Marin Marais, ça paraît incompatible.
Je dirais que ça aide au contraire, parce que comme ça on est vraiment dans le corps et on lâche prise. Après, c'est vrai que moi, quand j'ai su que Louise Moati voulait faire mettre des circassiens et des danseurs via le travail de Raphaël Boitel, j'ai tout de suite demandé « s'il vous plaît, faites-moi danser ». Et elles m'ont dit « oui, mais ça semble un peu incompatible au vu du personnage et de sa dramaturgie et de la tragédie d'Alcyone ». Et on a trouvé. J'ai dit « non, c'est pas possible, vous n'allez pas tous danser sur le plateau et pas moi, c'est mon rêve ultime de danser et chanter ». De coupler les deux arts, qui sont très puissants tous les deux.
De retrouver Nathalie Dessay et Marie-Agnès Gillot en une seule personne.
Alors, je dirais peut-être pas ça du tout quand même.
Non, c'est moi qui
j'en suis très loin. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le prologue, moi je ne chante pas dans le prologue, mais j'ai demandé, s'il vous plaît, faites-moi danser sur cette partie-là où tous les chœurs dansent, pour aussi prendre le plateau, arriver en même temps que tout le monde, être dans l'énergie du groupe, parce qu'on a formé une réelle troupe tous ensemble. Et ne pas arriver en tant que chanteuse au premier acte, je viens, je chante. Non, c'est un art total, l'opéra. On y danse, on y chante, on fait du cirque. Et sur Alcyone, tous les chanteurs se sont pliés au jeu. Et on peut par moments confondre même chanteurs et danseurs.
Léa Desandré, on a commencé par ce week-end, tous à l'opéra, hein, aujourd'hui et demain. Partout en France, on va dire, 21 salles en France ouvrent gratuitement leurs portes, pour essayer de contredire ce récent sondage qui a un mois à peine sur les pratiques culturelles des Français, qui montrait que 78% n'ont assisté à aucun opéra, aucun ballet, aucun concert de musique classique au cours des 12 derniers mois. Est-ce qu'Alcyone est un spectacle qui permet de s'ouvrir précisément à l'opéra et au plaisir et à l'émotion qui vont avec ?
Je dirais que oui, justement, parce qu'on y mélange plusieurs formes d'art. Ça bouge, ça vole, ça danse. C'est un vrai spectacle. On s'en met plein les yeux. La musique est sublime. Venez.
On peut venir. Bon, c'est à l'Opéra Comique à Paris encore jusqu'à demain, donc c'est très court. Mais surtout, ça sera ce soir à la télévision, sur Mezzo. Et je donnerai toutes les informations dans quelques secondes. Et à Desandré, après, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, cet été, vous serez au Festival d'Aix-en-Provence. Vous allez chanter dans un Cavalli ?
C'est ça. Eris Mena de Cavalli, avec Leonardo Garcia Alarcón à la direction. Ça va être la troisième année que je retourne à Aix. C'est vraiment un plaisir parce que c'est un festival où on est mélangé avec les artistes d'autres productions. Il y fait beau, il y fait bon vivre. Tout le monde est de bonne humeur. Les spectacles sont beaux. Donc venez aussi, mais allez à l'opéra, tout simplement. Tous à l'opéra.
Merci beaucoup Léa Desandré. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et alors pour être plus précis, Alcyone, c'est encore ce soir à 20h et demain à 15h à l'Opéra Comique. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, le spectacle sera retransmis ce soir en direct à la télévision sur Mezzo Live et sur Culture Box, puis le 21 mai diffusé sur France Musique. Et dans le cadre du week-end Tous à l'Opéra, aujourd'hui à 18h, le public pourra rencontrer Jordi Savall et Louise Moati dans la salle Bizet de l'Opéra Comique. Et mais ça, c'est à Paris. Toutes les informations sur le week-end Tous à l'Opéra sera bien sûr sur notre site.